Santé. C'est bon pour la santé qui débute à l'instant. Marianne Paquette qui vous accompagne au cours des 60 prochaines minutes. Bon midi, bon appétit et bienvenue si vous êtes en direct. Bienvenue également si vous avez préféré la balado-diffusion. Aujourd'hui à l'émission, fréquenter des personnes plus jeunes que nous lorsqu'on est une personne âgée serait bénéfique pour la santé, tout autant que la participation sociale des personnes aînées. J'en parlerai tout à l'heure en deuxième partie d'émission avec Fatima Ladadje. Elle est directrice de Intergénération Québec. Également, je vous présente l'association Le Cœur et les Jambes, une toute nouvelle association qui existe depuis 2014 qui permet à des enfants qui vivent avec différentes limitations fonctionnelles, de participer à des activités sportives, de loisirs ou encore de compétitions. Et là, attention, des compétitions d'envergure. On en parlera avec l'ambassadrice de cette association, Camille Parker, et également participante aux différentes compétitions, et Serge Laforge, président. Aussi avec Mélène Yee, une combattante du cancer du sein avancé, que l'on appelle aussi le cancer du sein métastatique. On parle de différents outils qui pourront aider les femmes atteintes de cette maladie. Je pense aux femmes atteintes, mais également à leurs proches hein, qui sont tout aussi touchés lorsque ce genre de maladie se pointe le bout du nez. Et tout à l'heure, comment devenir un cycliste prudent et ce, dès l'âge de 10 ans? C'est préférable d'une part, mais c'est également possible maintenant avec le programme Cycliste averti qui nous est présenté avec Magali Brebonne de Vélo Québec. Tout ça, mais avant, la revue de presse de Christiane Campagna. Bonjour Christiane.
Bonjour Marianne.
Merci d'être là. On débute avec cette nouvelle qui présente un outil, disons, assez particulier pour aider les personnes âgées dans leur équilibre.
Oui, on est vraiment dans la technologie, donc on travaille sur un prototype d'exosquelette pour empêcher les personnes âgées de tomber. Alors, la bonne vieille canne en bois pourrait être remplacée peut-être dans un avenir rapproché par un harnais robotisé. Ultra moderne.
Wow.
Bon, évidemment, c'est pas un, je l'ai pas pris dans le clin d'œil. Hein, on parle pas des considérations esthétiques de la chose. mais il y a des chercheurs qui travaillent sur un exosquelette qui pourrait permettre aux personnes de garder leur équilibre. Bon, quand on dit exosquelette, ça évoque justement des images d'énormes armures de science-fiction à la RoboCop. Mais dans ce cas-ci, ça ressemblerait plutôt à un harnais qu'on pourrait comparer à un baudrier d'escalade qui serait maintenu à la taille et aux cuisses. Et de part et d'autre, il y a des moteurs qui sont installés au niveau des hanches et reliés aux cuisses par des montants articulés. Et là, c'est que l'exosquelette, dans un premier temps, étudie la démarche de la personne. Et ensuite, ça va permettre à l'appareil de savoir quand est-ce que la personne glisse et s'apprête à tomber puisqu'il y aurait un mouvement non habituel à ce moment-là. Et c'est là que les moteurs entrent en action. Ils compensent le mouvement anormal en agissant sur les cuisses afin que la personne retrouve sa stabilité.
Et je trouve ça particulier.
C'est intense.
Vous parliez tout à l'heure d'esthétisme. Est-ce que vous avez vu des photos?
Non, malheureusement. Okay. Et puis, ça en est vraiment au stade...
C'est les premiers balbutiements.
Oui,
là.
Vraiment. On a fait des tests sur des personnes bon, de 69 ans, sur 8 personnes. C'est vraiment au stade d'idées.
Mais ça
l'instant.
Pourrait devenir très outillant pour les personnes âgées dans l'avenir.
C'était mon volet science-fiction.
Maintenant, l'agence Science Presse pose cette question. Nettoyant pour fruits et légumes, est-ce que c'est plus efficace que l'eau?
En fait, l'article d'Ève Baudin, ce qui nous permet, il cite un article qui est paru dans Nutritional Facts. Elle nous l'adapte aussi pour nous et qui cite plusieurs études qui ont été faites sur le sujet. Parce qu'en fait, ce qui nous inquiète quand on nettoie nos légumes, c'est la présence de pesticides. Et ces produits-là sont quand même assez coûteux. On parle de 5 à 17 $ pour environ 750 millilitres. Et bon, c'est quand même des produits qui sont composés majoritairement d'eau avec quelques ingrédients là, actifs. La plupart des études, en fait, disent que l'eau est aussi ou plus efficace dans certains cas que les produits. Il y a des exceptions, bien entendu. Certains pesticides, comme le captane, qui est en fait un fongicide, sont plus résistants que d'autres à l'eau. On avait essayé des tremper dans le vinaigre, mais évidemment, ça fonctionne, mais ça pourrait ajouter un certain goût, là, parce que c'est vraiment pas de l'eau additionnée de vinaigre, mais vraiment du vinaigre.
OK, OK.
Mais ça fonctionnerait quand même très bien si on les laisse tremper 20 minutes dans de l'eau additionnée de 10 % de sel. Mm-hmm. On en vient quand même en conclusion d'article à dire que ce qui reste à la fin, ce sont des résidus et qu'il faut se rappeler que les bénéfices de manger des fruits et des légumes dépassent grandement les risques de consommer des pesticides. Alors, il ne faut surtout pas se priver par phobie des pesticides.
Bouder les bons légumes voilà. Et les bons fruits. Maintenant, Dr. Cara Tannenbaum, médecin gériatre qu'on a reçu dans le cadre de C'est bon pour la santé, qu'on a adoré ici, eh bien, elle est dans le journal Métro. Elle milite, cette femme médecin, contre, je dirais, la prise de médicaments trop grande des personnes âgées.
Voilà, elle a longtemps travaillé en urgence et elle a remarqué notamment des fractures causées par la prise de somnifères. Et elle s'est aperçue en interrogeant les gens qui prenaient vraiment plusieurs médicaments qu'ils ne connaissent pas toujours très bien. Et elle s'implique au sein du réseau canadien pour la déprescription. Oui. C'est mon exercice de diction d'aujourd'hui. Alors, selon ce regroupement, 66 % des Canadiens âgés de 65 ans et plus avalent au moins 5 médicaments d'ordonnance différents par jour. Le quart des aînés au pays prennent au moins 10 médicaments. Avec l'âge, on accumule beaucoup de problèmes chroniques. On a aussi tendance à accumuler beaucoup de médicaments. Parfois, c'est nécessaire, mais certains ne sont pas importants. Selon le regroupement, certains médicaments peuvent devenir inutiles, voire nuisibles, à cause d'effets secondaires et d'interactions médicamenteuses. Alors, encore une fois, c'est toujours de gérer le risque de les prendre versus celui de ne pas les prendre.
Oui. Et bien sûr, on pourra diriger nos auditeurs vers cette entrevue-là qui était formidable avec Dr. Cara Tannenbaum qui fait vraiment du bon boulot pour les personnes âgées. Maintenant, dans le site de l'actualité, là, c'est votre volet un petit peu plus techno, oui. Christiane, une application pour téléphone cellulaire qui aiderait à diagnostiquer l'ostéoporose.
Oui, le professeur Shwetak Patel de l'Université de Washington a conçu une application pour téléphone qui diagnostique l'ostéoporose. L'utilisateur tient son téléphone dans sa main. Puis cogne légèrement son coude contre une surface dure et les capteurs de mouvement de l'appareil détectent les très fines vibrations qui voyagent à travers les os. Du coude jusqu'à la main, des algorithmes mathématiques là, déduisent si les os sont encore suffisamment denses. C'est pas lancé encore, ça doit encore faire l'objet d'essais cliniques, mais c'est comme un objet tout simple du quotidien qui servirait à faire ce genre de diagnostic.
Ce sont des essais qui se font ici au Canada?
Non, à l'Université de Washington.
OK. Mais je vous écoute, je me dis, on est encore un peu dans le volet science-fiction. Ça nous semble quand même assez particulier de dire qu'on va cogner et que cette machine que l'on traîne partout avec nous maintenant pourrait nous amener à un diagnostic clair.
Oui, mais ce serait peut-être pas le diagnostic définitif, ce serait peut-être juste le signal d'alarme d'aller consulter.
La puce à l'oreille, oui.
Entre les examens annuels et choses comme ça.
Dernier article maintenant, toujours volet plus techno, Facebook qui travaille sur un outil d'intelligence artificielle pour aider à prévenir le suicide.
Oui, il épluche les publications partagées sur le réseau social pour repérer des messages de détresse. Il peut reconnaître, par exemple, des allusions au désir de mourir ou l'usage répété d'émoticônes tristes. Une fois l'outil au point, les signalements seront transmis à une équipe pour vérifier si l'inquiétude est justifiée, s'il n'y a pas eu de sens figuré, d'ironie, j'imagine, des choses comme ça. Et le cas échéant, des ressources seront proposées à l'utilisateur. Évidemment, j'imagine qu'au nombre d'utilisateurs de Facebook dans le monde, le défi sera aussi d'adapter ça à toutes les langues utilisées par les utilisateurs de Facebook.
En même temps, c'est une façon d'aller rejoindre les jeunes et bien des gens là où ils se trouvent, une façon efficiente de prévenir le suicide. Et on souligne souvent les mauvais coups de Facebook, mais en même temps, ça peut aider à la santé mentale, à la prévention du suicide, ben, ça servira.
On pense à l'appel qu'Alexandre Alfer avait fait avec Amazon. C'est un peu dans ces eaux-là.
Oui. Tout ça est bien intéressant, un peu science-fiction, mais certainement bien utile. Merci, Christiane Campagnat. « améliorer la sécurité des jeunes cyclistes dans leurs déplacements à vélo, c'est possible. Et j'en parle à l'instant avec Magali Brebonne, elle est chargée de projet au transport actif à vélo Québec. Bonjour Magali.
Bonjour.
Et en plus, on en profite pour souligner aujourd'hui ce 50e anniversaire. Montréal fêtait tout récemment son 375e anniversaire et dans votre cas, 50e anniversaire, c'est quand même important à souligner.
Oui, et beaucoup de choses ont été réalisées depuis ce temps. Alors, on est content de regarder en arrière puis de voir tous les acquis qu'on a fait pour promouvoir le vélo pendant ces 50 ans-là.
Je veux que l'on parle ensemble du programme Cycliste averti. Pourquoi Vélo Québec a eu envie de mettre de l'avant ce genre de programme?
Ben écoutez, c'est deux constats principaux qui nous ont amenés à développer ce programme-là. Le premier, c'est qu'on a vu une baisse de la pratique chez les jeunes, de la pratique du vélo, alors que la pratique du vélo progresse dans tous les autres groupes d'âge. Et quand en 2010, on a fait notre étude quinquennale du vélo et qu'on a vu que les jeunes faisaient de moins en moins de vélo, ça nous a beaucoup préoccupés. Et la réalité, c'est qu'on se rend compte que avant, on prenait pour acquis que les parents apprenaient à leurs enfants à faire du vélo, mais maintenant, surtout dans des villes où il y a beaucoup de circulation, c'est moins le cas. Le deuxième constat qui nous préoccupait, c'était également de regarder dans les chiffres de la SAAQ et de se rendre compte que les jeunes cyclistes sont particulièrement à risque d'accident. Alors c'est là qu'on a ressenti le besoin de développer un programme qui apprendrait vraiment aux jeunes à se déplacer à vélo en toute sécurité. Et ça fait quand même appel à toute une panoplie de compétences. Faut pratiquement, parfois je dis à mes jeunes, faut pratiquement être aussi compétent que des conducteurs d'auto parce qu'il faut comprendre les règles de la route et savoir comment se comporter.
Est-ce que l'on sait, Magali, pourquoi les jeunes seraient plus susceptibles d'avoir des accidents à vélo que les personnes adultes?
Alors, c'est certain qu'il y a un élément de développement des capacités, j'allais dire pratiquement intellectuelles ou cognitives, disons, où avant un certain âge, on n'est pas tout à fait à même de bien analyser les situations, de bien anticiper les gestes des autres. Mais encore faut-il aussi comprendre quelles sont les règles qui nous mettent en sécurité, comprendre l'importance de ces règles-là en société, de rouler dans le bon sens, d'indiquer ses intentions, etc. Alors, c'est un peu tout ça qu'on veut leur amener dans un contenu condensé là pour qu'ils soient, ils aient une petite mise à niveau en fait.
J'ai l'impression aussi, et vous me corrigez si je me trompe Magali, que les jeunes d'aujourd'hui seront plus susceptibles d'utiliser les transports actifs pour se déplacer que peut-être d'autres générations qui préfèrent encore les voitures.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on souhaite avec ce programme, très clairement, c'est de créer des futures générations de jeunes qui vont être plus enclins à utiliser le vélo, qui vont aussi savoir mieux l'utiliser. On voit que les jeunes générations passent leur permis de plus en plus tard. Il peut y avoir plusieurs explications à ça, mais effectivement, les nouvelles générations sont plus prêtes à délaisser l'auto et puis faire appel au transport collectif et actif. Alors, on veut bien les outiller pour qu'ils soient en mesure de le faire en toute sécurité, parce que parfois, un accident malheureux ou une mauvaise expérience peut complètement nous couper l'envie de monter sur un vélo.
Oui, c'est bien dommage parce que c'est tellement, d'une part, un loisir pour certains, mais un mode de transport pour d'autres qui est tellement agréable, utile et qui nous garde en forme aussi, qui est bon pour l'environnement. Bref, le vélo, ça a beaucoup d'avantages. Magali, qui peut suivre la formation Cycliste averti?
Alors, ce programme-là, il est vraiment conçu pour les jeunes de 5e et 6e année du primaire. Donc, ce sont des jeunes qui sont âgés de 10 à 11 ans. Et en fait, il faut que ce soit les enseignants qui soient prêts à offrir ce programme-là dans leur école parce qu'on leur demande une contribution. On leur demande en classe de passer 6 heures à aborder toutes les notions de sécurité routière, comprendre les panneaux, parler des risques particuliers, par exemple des portières d'auto, des angles morts et de toutes ces choses-là. Il faut aussi que l'enseignant d'éducation physique soit prêt à faire son bout et travailler pendant le cours d'éducation physique à développer la maîtrise du vélo. Et ensuite, les encadreurs de Vélo Québec viennent et passent d'abord une première sortie sur route en groupe dans les environs de l'école pour qu'on apprenne à naviguer dans les rues. Et une semaine plus tard, en général, c'est leur examen.
OK.
Leur examen sur la route individuelle. Alors vraiment, ils repartent avec un bulletin qui rend compte de leur progrès. Alors c'est sûr qu'il faut que le milieu scolaire soit impliqué et souhaite le réaliser. Mais nous, notre objectif à moyen terme, c'est que tous les écoliers du Québec, ça devienne un espèce de passage obligé ou quelque chose de naturel, que quand on finit l'école primaire, on a appris à lire, à écrire, à nager, mais aussi à faire du vélo.
Est-ce que ça peut convenir à des jeunes qui n'ont jamais monté sur un vélo?
Oh, mais je vous rassure, dans pratiquement toutes les classes avec lesquelles on travaille, il y a souvent deux, trois, parfois même plus de jeunes qui n'ont jamais fait de vélo. Et alors là, les enseignants d'éducation physique ont toute une pente à remonter, c'est le cas de le dire, à leur apprendre vraiment, à leur enseigner à pédaler à vélo.
C'est particulier parce que souvent, le vélo, quand on veut se remettre en forme, c'est la première chose à laquelle on pense, remonter sur un vélo pour se mettre en forme. Et là, c'est un peu le travail inverse, c'est le premier contact de enfant avec un vélo. Je trouve ça assez bien.
C'est des moments magiques. Quand on enseigne un jeune à faire du vélo, la première fois qu'il arrive à pédaler et qu'il maîtrise son équilibre, ils sont vraiment émerveillés. Alors, ouais. C'est vraiment des moments magiques à vivre.
Maintenant, le programme Cycliste Averti, eh bien, il consiste en 4 volets différents. Vous parliez tout à l'heure du bulletin, de l'évaluation, mais il y a d'autres étapes avant.
Oui, voilà. En fait, c'est que quand Vélo Québec arrive avec ses encadreurs pour faire des activités sur route, les jeunes ont vraiment traité toutes les parties théoriques. Ils ont vraiment des notions. Alors, on ne fait que faire la synthèse de ces apprentissages et les mettre en pratique sur la route. Et puis, c'est sûr qu'on se fie aussi sur les enseignants d'éducation physique pour avoir fait leur volet pratique dans un milieu sécuritaire, donc soit le gymnase ou la cour d'école. Alors, c'est vraiment ces 4 éléments mis bout à bout, la théorie, la pratique en milieu fermé, la sortie de groupe, puis l'examen individuel, qui vont faire que nos jeunes, après, on va pouvoir leur remettre ce bulletin.
Ça se fait sur combien de jours?
Ça peut se dérouler sur plusieurs semaines. En fait, en général, okay. Ça commence au mois d'avril et puis les sorties peuvent avoir lieu en mai ou en juin parce que la saison du vélo qui coïncide avec l'année scolaire est quand même relativement courte au Québec. Fait que je vous dirais que là, on est en plein dedans. C'est au mois de mai et juin que se déroulent les activités sur route.
Est-ce que c'est offert seulement sur l'île de Montréal?
Non. Alors, on a commencé sur l'île de Montréal, mais désormais, on travaille avec des partenaires en région. Donc, on a un partenaire depuis l'an dernier déjà en Mauricie. On travaille également dans Lanaudière avec un partenaire qui s'appelle Paraschool. Et dans le bout de Bromont, Cowansville, Granby, grâce au Centre national de cyclisme de Bromont. À l'automne, c'est également dans la ville de Québec que le programme sera offert. Et l'an prochain, on prévoit déjà s'étendre à 3 nouvelles régions.
Oh, super! Si un parent écoute, parce que nous, vous savez, Magali, on est diffusé partout au Québec, un parent nous écoute, c'est pas proposé dans le cadre de l'école de son enfant, qu'est-ce qu'il peut faire?
En parler aux enseignants, en parler à la direction et entrer en contact avec nous pour qu'on puisse présenter le programme à l'équipe enseignante et voir s'ils sont prêts à embarquer.
Avez-vous pensé aux jeunes qui vivent avec des limitations fonctionnelles? Est-ce que ça peut être aussi possible pour eux d'y participer?
Oui, tout à fait. On a besoin de le savoir un petit peu à l'avance pour élaborer une stratégie appropriée. On a eu par le passé, par exemple, des jeunes qui avaient des troubles du développement moteur. Et dans ces cas-là, en fait, on a opté pour une girafe. C'est-à-dire que le jeune suivait l'enseignant ou le parent sur une girafe parce qu'il n'était peut-être pas tout à fait apte à conduire un vélo. Cette année, on a également une classe adaptée avec des jeunes qui sont malentendants. Alors, ça nous demande de nous adapter un petit peu, de s'assurer que les instructions sont données dans un contexte vraiment plus calme. Mais on est appuyé par les équipes enseignantes qui ont aussi l'équipement nécessaire comme des systèmes d'amplification pour pouvoir donner les instructions à tous les élèves. C'est vraiment au cas par cas. On pourrait également, si on le sait bien d'avance, et c'est pour ça que c'est important de bien le prévoir, avoir peut-être des tricycles adaptés, des vélos à main pour des jeunes qui ne pourraient pas avoir l'usage de leurs jambes. On a également toujours la possibilité d'utiliser un tandem, par exemple pour des élèves qui seraient malvoyants. Alors, bien sûr, on est à l'affût de ce genre de besoins-là et on espère pouvoir permettre à tous les jeunes de participer au programme.
Magali, le 4 juin prochain, c'est le Tour de l'île et c'est à ce moment-là que vous allez souligner votre 50e anniversaire. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Je vous souhaite, bien sûr, un très joyeux anniversaire. Merci pour tout ce que vous faites pour le transport actif du côté de Vélo Québec et on glissera votre site web vélo.qc.ca. C'est une façon d'en savoir davantage sur le Tour de l'île et sur le beau programme Cycliste Averti. Magali Brebonne, merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir. De nouveaux outils pour les femmes atteintes du cancer du sein métastatique existent. Cancer du sein métastatique peut aussi être nommé sous le terme cancer du sein avancé. On en parle à l'instant avec Mélène Yi. Elle a reçu il y a 8 ans ce type de diagnostic. Mélène Yi, bonjour. Type de diagnostic, je le nomme ainsi et en même temps, c'est intéressant qu'on puisse se parler avant d'ouvrir les micros parce que survivante ne serait peut-être pas un bon terme lorsqu'on parle de ce genre de diagnostic. Pourquoi? Parce que ce cancer-là, il ne se guérit jamais?
Exactement. Quand on parle de survivante, ça donne l'impression que la personne a passé à travers quelque chose et la personne a vaincu. Tandis que quand on parle du cancer du sein métastatique, pour nous, on n'est pas des survivantes. On va dans la bataille pour le reste de nos jours.
Ouais. Ça fait 8 ans que vous avez reçu le diagnostic. Vous me semblez en pleine forme. Comment ça se passe en ce moment pour vous, 8 ans après le diagnostic?
Je dois vous avouer que vraiment, je suis un cas exceptionnel. Dans mon cas, actuellement, je n'ai pas eu de traitement depuis 3 ans. Et je ne suis pas considérée à avoir du cancer actif dans mon corps, mais je suis vraiment un cas exceptionnel.
Oui, c'est important de le rappeler, hein?
Exactement, parce que ça peut réactiver à n'importe quel moment.
Oui. Quand on parle de cancer de sein métastatique, de quoi on parle et comment on peut le différencier de d'autres types de cancers du sein?
Typiquement, le cancer du sein est un cancer qui est localisé au sein. Dès qu'on parle d'un cancer métastatique, c'est quand le cancer n'est plus contenu seulement au sein et s'est propagé dans d'autres régions de du corps.
Ouais. Dans votre cas, il n'y a eu aucun signe avant de recevoir le diagnostic. Évidemment, on se dit que ça doit être différent pour chaque femme. Il n'y a rien qui peut annoncer que ce type de cancer-là nous touche ou va nous toucher.
C'est vrai. Maintenant, je réalise que oui, j'avais des petits symptômes, mais dans le temps, à l'âge que j'avais, bon, je pensais que j'étais fatiguée parce que je travaillais trop ou que je maigrissais parce que la diète que je suivais fonctionnait bien. Maintenant, je réalise qu'il y a des choses qui sont indicatives d'une possibilité d'un cancer, mais que à ce moment-là, je n'étais pas au courant. J'ai juste dit, bon, c'est l'âge, c'est la fatigue.
Ouais. Est-ce qu'il y a un facteur d'hérédité avec le cancer du sein métastatique?
Pour quelques cancers, oui, il y a un certain aspect d'hérédité. Dans mon cas, le cancer que j'ai n'est pas considéré comme étant héréditaire.
Encore là, on voit que c'est vraiment du cas par cas. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie, Méline, depuis l'annonce de ce diagnostic?
C'est certain que j'ai vraiment décidé de regarder mes priorités et de changer mes priorités. Donc, le côté professionnel n'est plus important comme c'était. J'ai réussi à gérer mon stress, mais c'est quelque chose que je dois continuer à travailler dessus. Ma famille est vraiment devenue la seule chose importante pour moi dans ma vie et je ne vis que pour des moments de bonheur avec ma famille.
Mais vous êtes maman d'une petite fille, je pense, hein?
Oui, je suis maman de 3 enfants. Mes 2 sont grands, puis un est toujours très petite.
Oui, c'est ça, exactement. Quand vous parlez de gestion d'anxiété, gestion du stress, je trouve ça intéressant parce que lorsqu'on vit avec une maladie chronique, comme bon, le cancer est une maladie chronique en soi, peut-être que l'image est encore plus saisissante avec le cancer du sein métastatique. Est-ce qu'on a l'impression de vivre toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête?
Oui. Et c'est pour ça que je trouve que le fait de s'informer peut même nous aider à gérer notre stress. Parce que lorsqu'on comprend qu'est-ce que le médecin nous dit, lorsqu'on comprend qu'est-ce qu'on lit dans les rapports, juste le fait de pouvoir comprendre et éliminer le questionnement peut nous aider à gérer notre stress et peut aussi diminuer tout l'aspect de l'inconnu.
Oui. Vous faites partie de ces femmes qui ont contribué à la création de nouveaux outils, probablement parce que c'était important de consulter ces combattantes-là du cancer du sein métastatique pour donner les meilleurs outils, la meilleure compréhension. Quand on reçoit ce genre de diagnostic-là, il y a évidemment un grand stress, une charge de pression. Des fois, ça peut être encore plus difficile de saisir l'information. Quels sont les questions clés à poser à l'équipe médicale qui nous suit?
C'est certain que la chose clé qu'il faut comprendre est quel sous-type de cancer qu'on a. Il y a 4 sous-types de cancer du sein. Chaque sous-type peut être traité d'une façon différente avec des protocoles différents. Il y a aussi peut-être des pronostics différents. Donc, c'est très important de connaître notre sous-type.
Maintenant, j'imagine, ça peut être bien de savoir quelle autre partie de notre corps est touchée?
Exactement, parce que là aussi, dépendamment des parties du corps qui sont touchées, les traitements peuvent être différents et aussi, là encore, le pronostic peut changer aussi.
Oui. Il y a différentes formes de traitement pour, disons, on ne peut pas parler de traitement, mais pour la gestion de la maladie?
Oui, on peut regarder soit la chimiothérapie, l'immunothérapie, le traitement hormonal, la radiothérapie, la chirurgie. Il y a plusieurs options, mais exactement, dépendamment de quel sous-type qu'on a et où est-ce que les tumeurs se trouvent, c'est là que les options changent.
Lorsque, il y a 8 ans, vous avez reçu ce diagnostic, Méline, quelle a été votre première question au médecin? Est-ce que vous vous en rappelez?
Je me rappelle parce que même si je connaissais le cancer, je ne connaissais rien sur le cancer. Ouais. Et donc, je lui ai dit, bien, faites qu'est-ce qu'il faut faire pour me guérir. Ouais. Et il m'a dit, bien, je ne peux pas vous guérir. Et c'était là le questionnement. Donc, je lui ai demandé, combien de temps est-ce qu'il me reste?
Mm-hmm. Oui, la première question qui vient.
Oui.
Et encore là, c'est différent pour chaque personne. Est-ce que, question un peu délicate quand même, Méline, lorsqu'on reçoit un diagnostic du cancer du sein métastatique, est-ce que on se dirige nécessairement, bien sûr, on comprend, vous êtes une exception, mais on se dirige nécessairement vers un décès?
Pas nécessairement. C'est chaque ça. Personne réagit d'une façon différente.
Au traitement et avec le temps aussi qui joue parfois en notre
oui.
faveur.
Ouais. Oui, et même aussi avec leur prognostic. Oui. Chaque personne vit la situation d'une façon différente. Il y a des gens qui sont très réalistes, il y a des gens qui sont vraiment dans le déni complet, et il y a des gens qui sont très fatalistes.
Oui, oui. Donc, j'imagine que l'équipe médicale va aussi avec chaque personnalité. Et il y a la personne qui est touchée directement par le cancer, mais il y a tous les proches. Comment vos proches ont réagi à cette nouvelle, il y a 8 ans?
C'est certain que pour mes parents, le fait d'entendre que leur fille allait probablement mourir avant eux était très difficile à entendre. Et même maintenant, ils ne peuvent pas croire que c'est ça qu'ils ont entendu. Mon oui. mari, bon, l'amour de ma vie, on veut pas l'entendre. Et pour mes enfants, je les ai vraiment protégés. On n'était pas tout à fait honnête avec les enfants parce oui. qu'on ne voulait pas enlever leur innocence.
Oui. Qu'ils puissent vivre leur enfance, leur adolescence
exact.
De façon la plus douce, régulière possible. En terminant, il reste peu de temps, Méline, il y a... Avec ce genre de diagnostic-là, parfois l'isolement qui s'installe chez certaines femmes, chez certaines familles, comment on peut contrer cette solitude-là?
Je recommanderais fortement aux femmes qui ont un cancer du sein métastatique d'aller visiter le site web du Réseau canadien du cancer du sein, parce que là, ils vont trouver des outils, ils vont trouver d'autres femmes atteintes. Et c'est en parlant avec d'autres femmes qui vivent la même chose qu'on réussit à se sentir moins isolée.
Oui. Et en plus, ben, on peut entendre votre témoignage, on peut voir que vous continuez à évoluer avec ce diagnostic-là. Et c'est très inspirant de vous parler, Mélanie. Merci beaucoup. C'était la deuxième fois qu'on se rencontrait. Ça m'a fait un grand plaisir. On glissera sur notre site web le lien vers le Réseau canadien du cancer du sein.
Merci.
Merci, Mélanie. Et nous, on se retrouve après la pause. Restez pas loin, on revient tout bientôt. Deuxième partie de cette émission, c'est bon pour la santé. Toujours Marianne Paquette avec vous. Je vous rappelle ce qui s'en vient tout à l'heure. On parlera avec Fatima Ladadge, directrice de Intergénération Québec. Oui, on parle des bienfaits pour les personnes âgées de fréquenter des personnes plus jeunes, donc de tous les rapports intergénérationnels, ce que ça peut nous apporter et bien sûr de toute l'implication sociale des personnes aînées. Tout ça dans quelques instants, mais avant, au bout du fil, Serge Laforge, qui est président de l'association Le Cœur et les Jambes, qui travaille également du côté du CHU Sainte-Justine comme technologue en médecine nucléaire, et Camille Parker, qui est avec moi en studio. Bonjour Camille.
Bonjour.
Bonjour Serge.
Bonjour.
Serge est au téléphone. Serge, j'aimerais ça que vous nous expliquiez comment vous avez rencontré Camille, parce que je pense qu'il faut reculer de quelques années.
Moi, ben, premièrement, j'ai rencontré Camille à l'hôpital. C'était l'une de mes patientes. Ça remonte déjà à environ 7 ans, si je me trompe pas. Donc, lorsque Camille on avait découvert qu'elle avait un cancer au niveau de sa jambe. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Camille. Puis, par la suite, ben, je la voyais aux 3 mois. Et on s'attache parfois à certains patients. Puis Camille, c'est une fille très enjouée, dévouée pour les autres. Puis elle mettait un petit peu de bonheur malgré tout dans nos cœurs, malgré sa maladie.
Camille, c'est vrai que tu as une bouille assez attachante. Tu as 18 ans, tu étudies au Collège Lionel Groulx, comme moi, mais il y a quelques années, on ne dira pas combien. Tu vis avec une prothèse.
Oui, exactement.
Tu as eu un cancer. C'est ce qui t'a amené à devoir vivre une amputation.
Oui, j'ai un ostéosarcome de stade 4, le même cancer que Terry Fox avait.
Ah, bon, mais c'est bien imagé, ça. Ça nous permet de bien comprendre. Serge, je reviens à vous. En 2014, l'association Le cœur et les jambes a été créée. Est-ce que c'était votre idée, ça?
Non. L'idée venait de Jérôme Cazade, qui était le président fondateur de l'association Le cœur et les jambes. Donc, lui, il avait vécu l'expérience en Europe, parce qu'ici, au Québec, à ce moment-là, il n'y avait pas de joëlette. La joëlette, c'est le fauteuil dans lequel on assoit nos jeunes pour se promener, pour courir ou pour marcher. Donc, l'idée venait de la France. On a importé l'idée de la France via Jérôme. Et par la suite, par l'entremise de d'autres coureurs, je me suis impliqué comme coureur au début pour faire le marathon de Montréal. Et par la suite, le temps a cheminé et on a fait plein d'autres courses. Mais c'était Jérôme à l'époque qui était le président. Et moi, j'ai pris l'intérim par la suite dû au travail de Jérôme qui est retourné en Europe. Ouais.
Et aussi, parce qu'il faut le dire, vous êtes un passionné de course, de triathlon notamment.
Oui, c'est ça. J'ai commencé à faire des marathons il y a quelques années. Par la suite, c'était dur juste courir. On a décidé de faire des triathlons, des duathlons. Et maintenant, on fait aussi de la joëlette.
Oui, parce qu'on l'a pas encore dit clairement, mais l'association Le cœur et les jambes, c'est une association, un regroupement de coureurs, de sportifs qui veulent permettre l'accès à des activités sportives, soit de loisirs, mais aussi parfois de haute compétition à des jeunes qui vivent avec différentes limitations fonctionnelles. Toi, Camille, dirais-tu que tu es une sportive?
Je suis plus sportive qu'avant.
Uh-huh.
Avant mon cancer, je faisais pratiquement aucun sport. Mais maintenant, depuis, j'ai une prothèse spécifiquement pour la course. Et depuis ce temps-là, aux deux derniers marathons de Montréal, j'ai fait la ligne d'arrivée en courant. Puis aussi, aux 21 km de la Banque Scotia, je l'ai terminé en courant.
Ouais. Dirais-tu que c'est un peu grâce à l'association Le cœur et les jambes? Est-ce que ça t'a permis d'être plus active?
Oui, certainement. Ils m'ont mis dans l'ambiance de la course. C'est assez intéressant. Ça apporte une nouvelle atmosphère.
Ouais. Serge, est-ce que c'est de par votre travail au CHU Sainte-Justine que vous avez eu la sensibilité d'inclure des jeunes à des activités de compétition et des activités sportives? Parce que je me dis, pour des coureurs de haut niveau qui aiment l'adrénaline, qui aiment la compétition, qui ont des objectifs bien clairs dans leur course, évidemment, ça change un petit peu les données.
Bien, c'est sûr que je suis sensibilisée du fait que je rencontre des patients malades à chaque jour. Puis aussi, j'ai des enfants. Mes enfants sont en santé. Donc, à mon tour, moi aussi, j'aime ça redonner à la société, parce que dans la société, il faut s'impliquer, il faut donner au prochain, parce que sinon, c'est pas comme ça qu'on construit une société. Donc, je pense que je suis une personne de cœur, puis j'aime courir, donc je me suis dit pourquoi pas inclure une activité que j'aime faire, puis la partager avec des jeunes, puis on ne sait pas, une fois que certains jeunes ont récupéré, peut-être que je vais leur donner le goût de la course.
Ouais.
Eux aussi vont donner au prochain. C'est ça le fil conducteur de l'association, c'est de donner une passion, de donner accès à des courses que ces personnes-là qui sont malades ou qui sont handicapées n'ont pas accès, parce que c'est limité à des personnes qui, en général, sont en forme, qui s'entraînent.
Oui, très actives. Il y a combien de coureurs au sein de l'association?
Présentement, on est d'une quarantaine de membres, mais souvent, c'est pas toujours évident. On est aussi à la recherche de personnel, de jambes et de cœur. Les jambes, c'est les coureurs, et les cœurs, c'est nos petits patients. C'est parce que tout le monde a des vies de famille, c'est du bénévolat, si on peut dire, puis c'est pas tout le monde qui est disponible pour, à un moment donné, une date précise. Donc, souvent, on est toujours un noyau de coureurs entre 8 et 10 coureurs. Mais si on fait un marathon, il faut être un peu plus, parce que la joëlette avec le jeune, c'est à peu près 200 livres à pousser, à tirer. C'est pas si facile que ça. Donc, il faut se relayer alentour, tourner autour de la joëlette, parce que sinon, 42 km, je peux vous dire qu'une joëlette, ça rentre dans les jambes.
Hé hey là là! Ouais. Camille, pourrais-tu nous décrire, du moins, de la façon dont tu l'aperçois, la joëlette?
La joëlette, pour moi, c'est comme un autre univers un peu. On sort de notre monde où est-ce qu'on est handicapé et où est-ce que les gens pourraient genre un peu s'appuyer sur notre sort, avoir un peu, pas pitié, mais nous voir d'une autre façon. Et dans la Joëlette, ils nous considèrent comme un coureur ou coureuse. On participe autant que les marathoniens. On a une médaille à la fin comme eux. Sauf que nous, au lieu de courir, on les encourage. C'est notre façon à nous.
Ouais. Est-ce que c'est confortable?
Oui, il est confortable, le fauteuil.
Vous en avez combien de Joëlettes, Serge?
On a une Joëlette. Présentement, je crois qu'au Québec, on a fait des petits. Il y a d'autres personnes qui se sont procurées une Joëlette. Je crois qu'il y en a une autre.
Je pense qu'il y en a deux.
Ouais. Ouais, dans ça. Les caravaniers de l'impossible, il y en avait, oui.
Oui, c'est ça. Mais nous, attends, on était les premiers à avoir la Joëlette, mais au Québec, peut-être qu'éventuellement, il va en avoir plus. Puis c'est ça le but, hein, c'est de faire participer d'autres personnes. C'est pas juste nous, le cœur et les jambes, mais dans le fond, c'est s'il y en a 50, mais tant mieux. Puis on fera des courses de Joëlette par la suite.
Oui, c'est sûr, parce qu'on peut pas faire les courses à travers tout le Québec en même temps. On peut pas avoir des jeunes de partout. Comme les gens de Québec, c'est un peu plus dur de s'organiser. Fait que s'il y a une organisation là-bas, ça fait que plus de gens peuvent en profiter.
Certainement. Maintenant, je ne peux pas vous laisser partir sans vous parler de cette extraordinaire expérience que vous avez vécue ensemble en 2015. On parle du, j'espère bien le dire, le Marathon des Sables du côté du Maroc, une course de 250 km dans le désert, j'imagine.
Oui, exactement, dans le désert du Sahara au Maroc.
Camille, quand Serge t'a proposé ça, parce que j'imagine que c'est venu de lui, comment as-tu réagi?
Moi, j'ai embarqué dès le départ.
Ah ouais.
J'ai pas hésité.
Ce qui est assez rassurant, j'imagine, Serge.
Ben moi, je pense que je suis une personne qui transmet sa passion. Puis Camille, ben vu que je la côtoyais, ben c'était sûr, c'était la personne idéale. C'était l'une de nos trois passagères sur la Joëlette. Donc on avait Jessica. Qui a un problème neurologique et de motricité. On avait Camille avec son amputation au niveau de sa jambe. Puis on avait Emmanuel qui, lui, a eu un accident qui s'est fait frapper par une auto, qu'il est paraplégique. Donc, c'était trois adolescents qui étaient merveilleux. Chacun a sa nature d'être. Puis on a parcouru 250 km sous leurs encouragements. Donc, nous, les coureurs, on était en autosuffisance. On avait notre sac à dos. À l'intérieur, on retrouvait de quoi pour dormir et de quoi pour se nourrir pour les 5 jours. Donc, il y avait une étape qui était de 90 km. Il y en avait de 30, de 50. Donc, tout variait. Là. Juste pour vous donner une idée, faire un 10 km dans le Sahara, c'est environ 2 heures, 2 heures et demie. Dans le Sahara, monter des côtes.
C'est une bonne journée.
Oui. Ça rentrait dans le corps. Le soir, on dormait bien.
Tu as vécu ça comment, toi, Camille, notamment le partage avec les deux autres ados qui étaient avec toi?
Le partage était différent. J'avais jamais rencontré ces jeunes-là avant, à part une fois dans l'hiver précédent. On avait fait une fin de semaine pour tous se réunir avec les coureurs pour apprendre à se connaître, à former des liens aussi.
Ben oui.
Et l'expérience là-bas, c'est une expérience d'une vie, ça a changé ma vie.
Ouais. Là, vous pouvez pas la voir, Serge, mais ses petits yeux bruns brillent de fierté. Et tout ça, grâce à vous, vraiment, faut souligner ce travail, cet engagement-là, qui est extrêmement émouvant et beau à entendre. Maintenant, je m'adresse à Camille. Comment tes parents réagissent à cette implication-là au sein de l'association Le cœur et les jambes et aux courses que tu peux faire avec l'association?
Mes parents réagissent très bien. Ils sont assez impliqués quand on a besoin de faire des changements avec les jeunes, parce que c'est pas toujours un jeune sur la Joëlette. Ils aident avec le changement des jeunes aussi. Ils aident avec l'organisation. Pour ce qui est de le Marathon des Sables, ils ont dû faire un assez gros lâcher-prise quand même. Mais en même temps, ils connaissaient déjà Serge depuis quelques années à l'hôpital. C'est juste les autres avant, ils ont dû laisser prise un peu, mais on avait eu le temps de se rencontrer avant.
Ouais. J'imagine en effet, Serge, que ce contact-là avec les parents de vos jeunes protégés, ça a un apport assez particulier et important pour l'association.
Bien, certainement. Quand on remonte à l'époque du Marathon des Sables, les parents nous ont fait confiance à 100%. Ils nous confiaient leur bien le plus précieux, partir avec leurs enfants, puis on n'était pas connus. Donc, envers eux. Donc, on est parti avec eux, on a développé une confiance, on s'est rencontrés quelques fois. Mais si on remonte pour les autres courses qu'il y a, c'est sûr que les parents, la plupart du temps, il y a toujours un parent qui court avec nous, puis on fait participer le parent et l'enfant. Donc, ça permet de valoriser l'enfant parce qu'il est encouragé par son parent et le parent, ben c'est merveilleux. Ces parents-là, ils donnent toute leur vie, toute leur fierté, ouais, comme nous, à leurs enfants.
Ouais. Dernière question pour vous deux. Qu'est-ce qui s'en vient? Les prochains défis qui vous attendent? Je pense que vous allez participer au Marathon de Montréal en septembre.
Avant le Marathon de Montréal, ben effectivement, on devrait participer au Marathon de Montréal, mais dans deux semaines, on a le défi santé Triolac qui se trouve dans la région de Vaudreuil-Dorion. On a la course aussi du Tour du lac Brome. Donc, c'est les deux prochaines courses de Cédulé. Possiblement, le mois d'août, on va prendre un petit relâche, vu que c'est la saison des vacances. Puis par la suite, ben, septembre, octobre, novembre, on
recommence. Oui. On a un calendrier de courses plus gros que les autres années. On essaie d'en faire le plus possible cette année.
Et toi, tout ça, ça te plaît, Camille?
Oui, moi, ça me plaît beaucoup. Je fais partie de l'organisation et de l'administration du Cœur et les Jambes.
Oui, d'ailleurs, tu es ambassadrice de l'association. Oui. Et Serge a même mentionné que lorsqu'il quittera la présidence, il aimerait que tu puisses la reprendre.
C'est planifié que c'est moi qui apprenne, oui.
C'est extraordinaire parce que, oui, on parle de saines habitudes de vie, mais on parle aussi d'engagement. Et puis, c'est des responsabilités d'être la présidente.
Oui, mais on n'est pas seul dans l'équipe, ça, c'est sûr.
Ah non, puis je pense que Serge sera jamais bien, bien loin. Merci à vous deux, Serge Laforge, président de l'association Le Cœur et les Jambes, également technologue en médecine nucléaire au CHU Sainte-Justine, Camille Parker. Bravo pour ta fin de session.
Merci.
Je te souhaite vraiment de très beaux succès dans tes études et beaucoup de plaisir. Lionel Groulx, c'est vraiment une belle place.
On a du plaisir.
Et également ambassadrice de cette association. Et de beaux succès dans vos courses. Bye-bye à vous deux.
Merci.
Je vous remercie. Bye-bye.
Bye-bye. Du 22 au 25 mai, c'est la 30e édition de la Semaine de l'amitié n'a pas d'âge. Et d'ailleurs, à cet effet, fréquenter des personnes plus jeunes serait bénéfique pour la santé des personnes âgées. C'est pas un mythe. Il y a même des chercheurs qui se sont intéressés à ces données-là. Et on en parle à l'instant avec Fatima Ladjadj. Elle est directrice de Intergénération Québec. Bonjour, Fatima.
Bonjour.
Alors, pas un mythe et plutôt vérifié et validé. Qu'ont pu découvrir ces chercheurs-là par rapport à tous les impacts bénéfiques de fréquenter des personnes plus jeunes quand on est une personne âgée?
Écoutez, c'est sûr que les recherches ne sont pas tout à fait vraiment au point, mais les premières recherches ont bien démontré que il y a quand même un effet très 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 positif pour les aînés quand ils sont en contact avec les jeunes. C'est sûr qu'ils se créent d'abord c'est clair, c'est qu'ils brisent l'isolement et puis la solitude. Mm-hmm. Ils se créent un réseau. Et en plus, ils poursuivent un peu l'engouement pour l'engagement social, pour la participation sociale. Et c'est sûr qu'ils sont plus vifs, physiquement ils sont plus alertes, psychologiquement ils ont le moral, ils sont ouverts un peu à de nouvelles expériences, ils veulent échanger avec les jeunes. Donc sur le plan de la santé, il y a beaucoup d'effets. Ça, c'est sûr.
Ouais. J'imagine aussi qu'il y a des avantages à l'échange de connaissances. C'est-à-dire que pour une personne âgée qui a des contacts avec quelqu'un de plus jeune, de demander des conseils sur la technologie, bien, ça peut être bien utile. Et à l'inverse, les personnes âgées ont tellement d'expérience, ils peuvent donner beaucoup d'outils et de conseils à des personnes plus jeunes.
C'est sûr qu'il y a l'échange est toujours gagnant-gagnant, ça c'est clair. Il y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs, puisque vous avez parlé de chercheurs, j'aimerais y revenir.
Oui.
Par exemple, dernièrement, dans le cadre d'un colloque, Monsieur André Tourigny, qui est co-directeur de l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés, il a proposé justement des activités intergénérationnelles comme piste d'action, comme de solution pour favoriser la participation citoyenne des aînés. Pour vous dire à quel point maintenant on s'est rendu compte que l'impact sur la santé physique et psychologique chez les aînés est important en faisant justement des activités intergénérationnelles. Et comme pour revenir à votre question, effectivement, les échanges sont tout à fait sont gagnant-gagnant, aussi bien l'un que l'autre, et puis ils gagnent dans cet échange. Par exemple, pour les jeunes, d'abord, c'est une lutte, ça leur permet de lutter contre les préjugés. Mm-hmm. Et puis, pour ce qui est des aînés, ils continuent d'apprendre, surtout quand il y a des échanges en matière, par exemple, technologique. C'est une façon pour eux de continuer d'apprendre, de travailler leur mémoire, ça c'est très important. Et aussi, c'est aussi des occasions pour eux d'être créatifs. Donc, on a tellement de projets. On a eu beaucoup, par exemple, dans le cadre du concours de la semaine L'amitié n'a pas d'âge. Vous savez, sur la multitude de projets que nous recevons, il y en a beaucoup où il y a la création. Il y a beaucoup de projets de création et de projets de partage qui permettent aux aînés de faire face un peu aux problèmes de dégénérescence cognitive. Mm-hmm. Donc, comme par exemple les projets de danse. Ça c'est important. Il y a aussi, par exemple, des projets où on nous parle de créer des espaces naturels, si je puis dire, où aînés et jeunes peuvent se rencontrer. Par exemple, créer un CH, mettre dans un même espace, bien sûr séparé par un couloir ou un espace entre les deux, entre un CHSLD et une garderie. C'est une façon de favoriser les rencontres. Et par exemple, quand il y a des activités de l'heure du conte ou de partage d'histoire, les aînés qui ont des problèmes cognitifs, vraiment, ils gagnent beaucoup. Et puis d'après les témoignages de leurs proches, ça leur apporte beaucoup de bienfaits, le fait d'être constamment en contact avec les enfants et les jeunes.
Fatima, est-ce que l'on pourrait dire qu'une personne âgée qui a des petits-enfants fait des activités intergénérationnelles aisément avec ses petits-enfants, que ça va de soi finalement?
Oui, c'est sûr que ça va de soi quand il s'agit de petits-enfants. D'ailleurs, nous, parmi les bénévoles, quand on les sollicite, ils font d'abord passer ce qui va de soi, les petites activités, les petits projets qu'ils ont avec leurs petits-enfants. Mais si vous voulez, un peu notre mission, c'est pour nous, c'est vraiment d'aller au-delà, parce que malheureusement, c'est pas tous les aînés qui ont la chance d'avoir leurs petits-enfants proches d'eux. Et de pouvoir organiser des activités. Donc, les projets intergénérationnels que nous recevons, vous savez, ça met en contribution beaucoup de jeunes qui parfois n'ont pas leurs grands-parents ici, par exemple au Canada, si on prend l'exemple des immigrants, et aussi d'aînés dont les enfants aussi ont voyagé et puis travaillent très loin, à l'étranger, quoi. Donc, ce qui veut dire que nous, notre mission, de par un peu la valorisation que nous faisons grâce à la semaine L'amitié n'a pas d'âge et au concours que nous faisons chaque année pour, valoriser tous les projets intergénérationnels, notre but vraiment, c'est de sensibiliser la population à l'importance de ce rapprochement. C'est-à-dire que ça ne reste pas juste au niveau familial, mais c'est que monsieur et madame tout le monde pensent que se rapprocher entre les générations, c'est quelque chose de naturel, de normal. D'ailleurs, nous sommes dans une phase où on ne pense plus à l'intergénérationnel comme étant une activité en soi, mais beaucoup plus un processus où, par exemple, on pourrait repenser même la configuration architecturale de certains espaces. Comme je vous l'ai dit, mettre par exemple un CHSLD, une garderie, une petite école proches l'un de l'autre pour pouvoir favoriser les échanges et multiplier les occasions pour les liens intergénérationnels.
Ouais. Maintenant, Fatima, j'aimerais que l'on parle de cette semaine de l'amitié n'a pas d'âge. Qu'est-ce qu'il faut surveiller pendant ces jours-là?
En fait, la semaine, si vous me permettez, je vous fais un historique. Elle est née vraiment, il y a 30 ans de cela, d'un besoin. Et comme je vous ai dit au départ, c'est qu'à la direction de la santé communautaire de l'hôpital Verdun, au sud-ouest, ils se sont aperçus que les aînés souffraient davantage de problèmes d'isolement, de solitude, que de leurs propres problèmes de santé. Et on a créé une petite campagne pour entre voisins, et on a aussi fait en sorte que les jeunes des écoles aillent visiter les aînés. Et d'année en, et puis l'année d'après, on l'a baptisée la semaine l'amitié n'a pas d'âge, et elle a pris de l'ampleur depuis, et l'organisme a pris cette lettre patente seulement en 1995. En fait, la semaine, qu'est-ce qu'elle a pour objectif? C'est vraiment de valoriser et les activités intergénérationnelles et aussi de sensibiliser la population à l'importance du rapprochement et de faire en sorte aussi qu'il y ait de la mobilisation autour. Donc pendant la semaine, nous, ce qu'on fait, on sollicite une multitude on fait un appel de projets. Et vous savez, cette année, on a eu 107 projets.
Wow. Donc,
oui, c'est un chiffre record, qui ont participé au concours et qui nous sont parvenus de 16 régions administratives de tout le Québec.
Oui. Quels sont vos critères pour déterminer un projet qui fonctionne mieux que d'autres? Est-ce qu'il y a des activités intergénérationnelles qui sont plus efficientes?
Écoutez, c'est sûr que nous, on ne peut pas quand même, quand on dit on valorise les activités, ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas remporté, par exemple, un prix ne sont pas valables,
oui.
Pas du tout. Elles ont toutes le mérite d'exister, puis elles ont un seul et même objectif, c'est celui de sensibiliser à l'importance du rapprochement intergénérationnel. Qu'elle soit petite ou grande, que ce soit une lecture de contes, que ce soit une activité de soupe ou de biscuits, ou alors une activité qui a un impact. Il y a des jardins communautaires, par exemple des jardins potagers communautaires qui rassemblent, qui mettent à contribution aussi bien les jeunes que les aînés. Donc pour vous dire que les activités sont très diverses et elles ont toutes peut-être, parfois il y en a qui ont peut-être un effet immédiat, ne serait-ce que pour briser l'isolement, mais d'autres ont un effet majeur, comme ceux dont je vous ai parlé, ceux qui favorisent un peu la lutte contre les pertes cognitives.
Oui.
Et c'est des activités qui permettent quand même de transcender la maladie. Donc, c'est dépendamment des activités, il y en a qui ont un effet tout à fait immédiat, comme je vous ai dit, ne serait-ce que organiser, par exemple, il y a des jeunes qui organisent, par exemple, un brunch cabane à sucre et ils invitent des aînés pour partager un moment d'échange avec eux un moment, disons, agréable. C'est sûr que ça a un effet immédiat, mais aussi il y a d'autres qui ont un effet beaucoup plus important et surtout un effet sur la santé psychologique.
Oui, la santé globale aussi. Vous avez reçu un nombre record de projets cette année, 107, mais on peut en trouver quand même 520 sur votre site web. C'est une façon pour les différents organismes partout en province de s'inspirer. D'ailleurs, comment les organisations peuvent offrir des activités intergénérationnelles pour la semaine L'amitié n'a pas d'âge et aussi chapeauter là, par votre organisme?
Ce qu'on est en train de faire, là, d'habitude, justement, c'est juste les participants au concours qui sont un peu au courant de cette semaine parce que ils envoient leurs projets, on les appelle pour les finalistes, etc. Il y a des attentes par rapport à cette semaine. Mais actuellement, là, ce qu'on veut faire de la semaine, c'est vraiment une semaine de sensibilisation et de mobilisation. Actuellement, il y a deux ans de cela, on a commencé l'an dernier, c'est qu'on essaye de sensibiliser, par exemple, les bibliothèques. Les bibliothèques, on voudrait qu'elles organisent, dans le cadre de la semaine, une activité intergénérationnelle. Cette année, parmi les bibliothèques qui ont participé, c'est ceux de Laval, ceux de l'Outaouais et ainsi que ceux de Montréal. Donc, on essaye de faire en sorte que cette journée, parce que dans le cadre de la semaine, il y a la journée québécoise L'amitié n'a pas d'âge qui est le 25 mai, le lendemain du 24. Donc, autour de cette semaine et de cette journée, on essaye de faire en sorte qu'il y a beaucoup d'activités qui se grèvent autour. Et surtout, on essaie de sensibiliser certains acteurs de la société québécoise pour qu'ils posent un geste en matière de rapprochement intergénérationnel. C'est la raison pour laquelle nous faisons beaucoup d'efforts chaque année. On essaye d'être un peu innovant dans notre façon de faire pour élargir un peu le public cible et ne pas rester juste avec ceux qui participent à la semaine.
Oui.
Là, par exemple, cette année, pour la première fois à l'occasion de la 30e édition, nous avons organisé un colloque. Et la thématique du colloque, c'est justement espace et génération.
Oui, ça se passe aujourd'hui, justement. Espace et génération, enjeux et perspectives.
C'est ça. Et ce qu'on a voulu faire, c'est que on réfléchit collectivement avec tous les acteurs qui pourraient être interpellés de près ou de loin par la question, qui se sentent interpellés, on veut réfléchir collectivement sur la création d'espaces qui pourraient favoriser les liens intergénérationnels.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que, comme je vous ai dit des exemples, il y a le cohabitat intergénérationnel. Ça, c'est deux expériences qui commencent à se développer dans la province, au Québec. Il y a beaucoup d'exemples à l'étranger, en France par exemple et en Belgique. C'est quelque chose qui est très courant, chose qui ne l'est pas. C'est plutôt quelque chose de nouveau ici au Québec. Et on veut justement, à travers ce genre de journée de ressourcement, sensibiliser aussi bien les acteurs que monsieur et madame tout le monde, la population en général, à l'importance du rapprochement. C'est pour ça qu'on a organisé un colloque avec une thématique bien précise. Et en même temps, c'est plutôt une cérémonie de remise de trophées aux projets qui se sont le plus démarqués dans différentes catégories. Quant aux critères, comment on les choisit? Il y a bien sûr le critère nombre de personnes touchées, il peut y avoir aussi la valeur ajoutée.
Fatima, je dois vous arrêter ici, il ne reste plus de temps à cette entrevue, mais je vous souhaite une très belle semaine de l'Amitié n'a pas d'âge qui, je le rappelle, se poursuit jusqu'au 25 mai. Donc demain, www.intergénération Québec. Fatima Ladjadj, vous en êtes la directrice de Intergénération Québec. Merci beaucoup de votre présence à l'émission.
Merci beaucoup.
Au revoir. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette émission. C'est Mathieu Tessier à la mise en onde, c'est Louise Vien et Sylvie Rivard à la recherche et Christiane Campagna aux médias sociaux et à la revue de presse. Marianne Paquette qui vous salue. Portez-vous bien, puis allez visiter notre site, vuesetvoix.com. Bye bye, à la semaine prochaine.